L'Éden de Seth en numéro 73. Questions et réponses de la réunion des ministres de l'Afrique francophone d'octobre 2022. Le 16 octobre 2022. Brian Kozurek, pasteur. Hier, nous nous sommes réunis pendant quelques heures avec des ministres de l'Afrique francophone et ceux d'autres pays africains, ainsi que de l'Inde. 7 pays ont participé à notre réunion. Question 1. Il cite quelque chose que frère Branham a dit dans son sermon « Comment puis-je vaincre ?» 25 août 63 met un P, 55 une partie de la citation se lit ainsi. « Bien qu'il soit mon mari, mais cependant votre, pasteur Esther votre mari spirituellement parlant. » Vous voyez ? Puis, la question. Lors de votre voyage missionnaire à Kinshasa en RDC, en 2004, vous avez dit que la déclaration, votre pasteur Esther votre mari spirituellement parlant, a été faite par le prophète, humoristiquement, pas sérieusement. Je peux me tromper, mais c'est Esther ce que j'avais compris alors. Donc ma question Esther, si c'est Esther le cas, pourquoi frère Vell a-t-il fait les déclarations suivantes dans les questions et réponses sur les pasteurs numéro 11? Page 1 et 2, maintenant. Depuis que nous avons commencé à essayer de donner un discours biblique médian sur quelque chose que frère Branham a dit à propos de la relation entre le pasteur et les gens, surtout en ce qui concerne celle où le pasteur, spirituellement parlant, Esther le mari de l'Église, nous voulons continuer en gardant cette pensée à l'esprit, afin de comprendre et de recevoir autant de choses que nous le pouvons. Maintenant, dans cette question traitant de cette thèse du pasteur étant spirituellement le mari de l'Église, nous voulons aller à 1 Corinthiens 7. Parce que ce chapitre parle du mariage. Et si vous parlez du mari et de la femme, vous parlez du mariage, et au verset 10 et 11, que nous avions lu et examiné. Réponse numéro 1, maintenant. La citation que vous avez utilisée de frère Branham Néhémie donne pas une image complète de ce qu'il dit, ni celle que vous avez donnée du sermon de F.R. Vell. F.R. Vell n'enseignait pas pour doctrine que le pasteur Esther le mari de l'Église. Il disait simplement que s'il était spirituellement le mari de l'Église, alors vous devez examiner tout ce que le mariage implique et donc vous devez examiner 1 Corinthiens 7. C'est Esther donc ce que nous allons faire pour répondre à votre question. Et si vous devez considérer un pasteur comme étant réellement le mari de l'Église, vous auriez également à faire face aux lois du mariage et vous seriez coincé à vie avec ce pasteur. Et si jamais vous quittiez ce pasteur et en cherchiez un autre, vous commettriez un adultère, parce que vous seriez marié à plus d'un pasteur. Par conséquent, nous n'y devons pas jouer avec la parole de Dieu et essayer de lui faire dire des choses qu'elle n'y dit pas. Si vous supposez que ce que William Branham disait, il enseignait pour doctrine, que le pasteur Esther le mari de l'Église, alors il devrait aussi dire que Christ n'Esther pas le mari de l'Église, et que le pasteur Esther le chef ou la tête de l'Église. Et ce, parce que vous Néhémie, pouvez pas avoir deux maris. Donc, soit Christ Esther le chef de l'Église, soit le pasteur Esther le mari de l'Église. Mais vous Néhémie pouvez pas avoir l'un et l'autre en même temps. De plus, nous savons que William Branham n'a enseigné que ce que l'apôtre Paul a enseigné et donc, il n'enseignait pas pour doctrine cette notion que le pasteur Esther le mari de l'Église, mais qu'il a plutôt utilisé cette déclaration comme illustration. Car l'enseigner comme doctrine serait trop contraire à ce que l'apôtre Paul a enseigné et apporterait donc une malédiction pour soi-même. Alors lisons d'abord la citation de William Branham dans son intégralité. Et quand vous la lisez, vous verrez qu'il utilise ces mots dans le sens d'une illustration montrant comment certains membres d'église suivent aveuglément leur pasteur comme certaines femmes suivent aveuglément leur mari. Vous devez examiner ce qu'il dit avant et ce qu'il dit après cette déclaration. Parce que ce qu'il dit avant et après fait toute la différence dans la façon dont nous devons comprendre ce qu'il dit. Nous lisons donc dans son sermon Comment puis-je vaincre ? 25 août 63 Matin P. 55 Frère Branham parle de la femme de Lot d'où cette partie de la citation était tirée. Remarquez ici comment il parle de la femme de Lot. Comment puis-je vaincre ? 25 août 63 Matin P. 53 Je pourrais parler d'un autre personnage. À l'époque de Lot, Jésus a fait allusion. Il n'y en avait que trois qui ont vaincu, Lot et ses deux filles. Même sa femme n'a pas vaincu. Elle est Esther. Elle a commencé. C'est Esther un type. J'aimerais que nous ayons le temps. Mais 30 minutes sont écoulées maintenant. Vous voyez? Elle l'était. Elle s'en sortait bien. Elle est Esther partie. Maintenant, je dois vous donner ce type juste un instant. Beaucoup d'entre vous sont également partis. Beaucoup d'entre vous ont quitté ces choses pour prendre position, après l'avoir sondé dans les Écritures et avoir trouvé que c'était juste. Vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant, mais pas ce que certains ce que quelqu'un a dit être la confirmation, ce que la Bible a dit qu'elle serait, et voici elle le fait. Vous avez vu que c'était la vérité. Vous avez donc décidé de quitter Sodome, de quitter les dénominations, de laisser les choses qui vous lient à un credo, et de suivre Christ par le Saint-Esprit qui se confirme par la parole écrite de Dieu. En d'autres termes, vous avez pris la Bible au lieu de credo. Vous avez décidé de suivre. 54 Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose, vous savez. Elle a décidé d'aller avec Lot, de suivre son mari, ses enfants, ses proches, mais ce n'était pas dans son cœur. Elle aimait toujours le monde. Il est Esther donc possible que vous puissiez commencer à avoir toujours le monde en vous. Vous voyez, elle n'a jamais vaincu. Et même si elle était bien sur la route, cela l'a finalement renversée. Elle devait prendre ce dernier, grand et long regard. C'est Esther là qu'elle s'Esther fait prendre. Néhémie regardait même pas en arrière. N'ayez pas de désir. Continuez. Focalisez votre esprit sur le calvaire et continuez d'avancer vers Christ. 55 Vous voyez, elle a commencé comme une vainqueur, mais elle n'a jamais vaincu. Oh! Elle a quitté la dénomination. Elle l'a fait. Elle est Esther sortie de Sodome avec Lot. Mais elle voulait y retourner et se faire couper les cheveux. Vous savez? Elle devait rentrer. Elle n'y pouvait tout simplement pas supporter le test. Elle devait encore regarder derrière pour voir ce que les autres faisaient. Oh! Vous savez? J'ai de bons amis là-bas après tout. Et après tout, ce n'est peut-être qu'un petit mouvement. Je n'ai mis c'est pas si cela a pu être juste ou pas. Je n'ai que la parole de cet homme pour cela. Bien qu'il soit mon mari, mais cependant votre pasteur Esther votre mari spirituellement parlant. Vous voyez? Maintenant, que cela a pu être juste ou pas. Je n'ai mis c'est pas. Peut-être que sa révélation n'était pas juste. Alors, si vous n'êtes pas parfaitement satisfait, vous n'êtes pas parfaitement conscient que c'est Esther la parole de Dieu, alors vous n'y pouvez parler. Voyez? Vous devez être vraiment dévoué. Vous devez le savoir. Pas seulement dire, eh bien, je vois d'autres le faire. Je vois un signe. Donc, tout d'abord, frère Branham n'utilise la femme de Lot que comme exemple pour faire valoir le fait qu'elle n'avait aucune révélation personnelle et qu'elle n'aimait faisait que suivre son mari sans sa propre révélation du pourquoi. Et il illustre la façon dont tant de gens suivent leur pasteur comme beaucoup de femmes suivent leur mari, mais elles n'ont pas de révélation propre. Alors quand les choses se sont compliquées, elle a arrêté de suivre l'homme et a fait demi-tour. Par conséquent, elle était un type du pratiquant, qui suit la foule sans sa propre révélation. Maintenant, de conclure de cette illustration que FR Branham enseigne réellement qu'un pasteur Esther en fait le mari de l'Église, vous devrez vraiment exagérer ce qu'il dit, puniez ce que l'apôtre Paul a enseigné, pour doctrine. Mais cela signifie aussi que les gens qui enseignent cela n'ont pas la révélation de la parole. C'est Esther une chose d'utiliser cet exemple comme une histoire ou une illustration, pour faire valoir un point, mais son Esther une autre d'en faire une doctrine qu'on doit adopter. De dire d'un pasteur qu'il est Esther le mari de l'Église Néhémie serait pas différent de dire que Jésus était en fait une poule, parce qu'il a lui-même dit dans Matthieu 23.37 Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous Néhémie l'avez pas voulu. Bien sûr, il faudra un esprit très déséquilibré de conclure de cette déclaration que Jésus Esther lui-même qualifié d'une poule. Pourtant, ils utilisent une déclaration de frère Branham, qui essayait d'expliquer de quelle façon un membre d'église, qui n'a pas de révélation, mais qui suit simplement son pasteur comme la femme de Lot a suivi son mari en sortant de la ville, mais comme cela Néhémie lui a pas été révélé, elle a fait demi-tour, et ils essaient d'utiliser cette illustration pour contrôler l'église. Et puis ils disent que le prophète a enseigné cela. Mais il n'a pas enseigné cela. Maintenant, dans son sermon sur l'intendance numéro 13 indiqué P. 68, Frère Bell nous fait savoir combien il est dangereux d'utiliser une illustration pour des gens qui n'aiment sont pas remplis du Saint-Esprit. Et rappelez-vous que sans le Saint-Esprit, personne n'aimé peut comprendre les choses de Dieu. Alors il dit, maintenant, vous pouvez utiliser cela comme illustration, et Esther très bien. Et vous pouvez relier cela aux gens, Esther très bien. Et il peut y avoir beaucoup de vérité là-dedans. Mais je veux vous montrer ici que lorsque vous arrivez à ce qui fait autorité, vous feriez mieux de comprendre qu'il y a un principe avec ce qui fait autorité, et que si une illustration Esther utilisée, cela pourrait vous égarer et vous détruire. Esther ce qui inquiétait beaucoup frère Branham. Quand Esther il des paraboles de Jésus, il les a toutes expliquées. Ainsi, quand un homme a le Saint-Esprit, une femme a le Saint-Esprit, cette personne agira, devra agir et agira. Si elle soumet son corps, qu'elle se tienne juste là et tienne bon, comme un sacrifice à Dieu, cette personne agira selon le Saint-Esprit. Et, quand elle le fera, il ne se réjouira pas de l'iniquité, il se réjouira seulement de la vérité, il supportera tout, croira tout, espérera tout, endurera tout, Néhémie faillira jamais, quoi qu'il arrive. Il y a un danger qui Néhémie doit pas être négligé dans notre compréhension de l'utilisation des paraboles ou des histoires par notre Seigneur Jésus-Christ, ou ses prophètes d'ailleurs. Le danger d'utiliser des paraboles ou des histoires pour illustrer un point Esther que si vous Néhémie comprenez pas de quoi parle vraiment l'orateur, l'histoire ou la parabole qu'il choisit d'utiliser peut être une épée à double tranchant. Et vous pouvez finir par courir dans la mauvaise direction en fonction de la manière dont vous percevez l'histoire qu'on vous raconte. Une parabole peut alors induire un auditoire en erreur aussi facilement qu'elle peut faire comprendre une pensée. Et c'est exactement ce que Jésus dit aux disciples dans Matthieu 13.10-17, 10 les disciples s'approchèrent, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? 11 Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'est mis leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 sesterces pourquoi je leur parle à la foule en parabole. Parce qu'en voyant ils n'aient mis voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni n'aient mis comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous n'aimez m'y comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous n'aimez m'y verrez point. 15 Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fortement fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aient mis voix de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent à moi, et que je n'aie mis les guérisse spirituellement. 16. Mais heureux, spirituellement conscients et privilégiés par Dieu sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, qui étaient honorables et dans une position droite avec Dieu, ont désiré voir ce que vous voyez, et n'aimés l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'aimés l'ont pas entendu. Et donc, les illustrations, les paraboles et les histoires sont bonnes pour faire comprendre un fait à ceux qui comprennent les choses spirituelles, mais pour ceux qui n'aimés les comprennent pas, il court un grand danger de prendre la parabole pour doctrine. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4.3 si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils n'aient mis pas briller sur eux la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ainsi, Dieu utilise son ministère pour prêcher et enseigner les choses de cette manière, en utilisant des illustrations, des paraboles et d'autres figures de style, pour cacher délibérément ou perdu ce que Dieu a révélé à ceux qui ont son esprit. Fr. Branham dit dans son sermon Dieu dévoilé 14 juin 64 matin p. 13 et à chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et j'ai confiance que vous avez acquis une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Vous voyez? C'est une chose parfois. Nous devons dire les choses de telle sorte que cela puisse disperser. Cela pourra amener certains à sortir, d'autres à partir et d'autres à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit ainsi. Ainsi, les paraboles, les illustrations et les histoires sont introduites pour faire comprendre un point à ceux qui croient et comprennent, mais à ceux qui n'aiment ni comprennent pas et n'aiment ni croient pas, cela peut les amener à se disperser ou à réfléchir, et finalement à tomber. Et Dieu fait cela expressément. Car seuls ceux qui sont destinés à le croire et à le recevoir vont le comprendre. Tous les autres, Jésus a dit, n'aimez le comprendront pas, et c'est ainsi qu'il a utilisé des paraboles. Mais si vous voulez prendre ce que William Branham a dit dans cette illustration à propos de Lot et de sa femme et le changer en la relation entre le pasteur et son église, en tant que mari de cette église, il vous faudra également prendre les écritures suivantes sur une femme et son mari et les appliquer au pasteur. C'est ce à quoi faire. Il faisait allusion avec 1 Corinthiens 7. Voyons donc si cela tiendrait la route et nous donnera un point de vue définitif sur ce dont les Écritures parlent afin de savoir qui est le mari de l'Église. Et faisons en sorte qu'il soit plus facile pour vous de voir à quel point cette déclaration est ridicule lorsque nous lisons les Écritures qui se rapportent aux lois du mariage. Alors changeons simplement le mot mari par le mot pasteur pour voir à quel point ce serait ridicule. Romains 7.2 Ainsi, une femme qui a un pasteur est liée par la loi à son pasteur tant qu'il est vivant. Mais si le pasteur meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son pasteur. Par conséquent, Vous, Néhémie, pourriez jamais changer de pasteur si vous croyez que le pasteur Esther le mari de l'Église, parce que ce serait de l'adultère. Paul dit qu'il faut que le mari meure pour que la femme puisse avoir un autre mari. Et si le pasteur Esther le mari, alors vous êtes coincé avec votre premier pasteur jusqu'à ce qu'il meure. Si vous voulez prendre cette illustration pour doctrine. Et comment alors pourrions-nous lire 1 Corinthiens 14.35 si elles veulent s'instruire sur quelque chose? Qu'elles interrogent leur pasteur à la maison? Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant, passons à 1 Corinthiens 7, parce que l'apôtre Paul y parle beaucoup de la relation entre une femme et son mari. Et c'est Esther ce que frère Vell a également suggéré que nous fassions pour comprendre cette relation selon les lois du mariage. Mais comme je l'ai mentionné, si le pasteur Esther le mari de l'église, alors insérons simplement le mot pasteur là où l'apôtre Paul utilise le mot mari. Et là où il dit femme ou épouse, insérons simplement le mot église. 1 Corinthiens 7.2 toutefois, pour éviter l'impudicité, que le pasteur est son église, et que chaque église est son pasteur. 1 Corinthiens 7.3 que le pasteur rende à son église ce qu'il lui doit, et que l'église agisse de même envers son pasteur. 1 Corinthiens 7.4 l'église n'a pas autorité sur son propre corps, mais Esther le pasteur. Et pareillement, le pasteur n'a pas autorité sur son propre corps, mais Esther l'église. Maintenant, si vous le lisez de cette façon, alors le pasteur Néhémie peut pas proclamer librement la parole de Dieu, mais il doit vérifier auprès de l'église avant de le faire. Comme beaucoup de dénominations qui contrôlent leur pasteur en utilisant le conseil d'administration de l'église. 1 Corinthiens 7.10 à ceux qui ont un pasteur, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que l'église Néhémie se sépare point de son pasteur, 1 Corinthiens 7.11, si elle, l'église, Esther séparée, qu'elle demeure sans pasteur ou qu'elle se réconcilie avec son pasteur, et que le pasteur Néhémie répudie point son église. J'espère maintenant que vous pouvez voir à quel point il serait ridicule de le prendre littéralement. Mais regardez le prochain verset. Ce serait incroyable. 1 Corinthiens 7.13 et si une église a un pasteur non croyant, et qu'il, le pasteur, consente à habiter avec elle, qu'elle, l'église, n'aime et répudie point son pasteur. Et pourquoi le pasteur non croyant voudrait-il rester avec une église de croyants? L'argent. Mais pourquoi une église qui croit voudrait-elle avoir un pasteur non croyant à sa tête? Maintenant, je sais que cela s'Esther produit dans ce message. S'Esther arrivée à Lima, au Pérou, et il a fallu plusieurs années aux gens pour comprendre que le pasteur était un incroyant. Mais, si c'était le cas, si le pasteur incroyant veut rester, alors comment le prophète de Dieu pouvait-il dire, « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés » dit le Seigneur. On s'attend donc à ce que vous sortiez et trouviez un berger, un pasteur qui vous nourrira. 1 Corinthiens 7.14 Car le pasteur non croyant Esther sanctifié par l'église qui croit. Et l'église non croyant Esther sanctifié par le pasteur qui croit. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 1 Corinthiens 7.16 Car que sais-tu, Église, si tu sauveras ton pasteur? Ou que sais-tu, pasteur, si tu sauveras ton Église? 1 Corinthiens 7.34 Or il y a de même une différence entre l'Église et la Vierge, celle, l'Église, qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle, l'Église, qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son pasteur. Maintenant, je pense que cette écriture ici décrit très clairement la situation. La plupart des églises suivent leur pasteur comme s'il était leur mari au lieu que l'église soit mariée à Christ. La parole. Parce que dans de nombreuses églises, les gens refuseront la vérité pour obéir et plaire à leur pasteur. Maintenant, lisons juste un peu plus où le mot mari a été substitué au mot pasteur afin que vous puissiez voir à quel point ce faux enseignement est ridicule de transformer une illustration en une doctrine qui doit être vécue. 1 Corinthiens 7.39 Une église est liée aussi longtemps que son pasteur est vivant. Mais si le pasteur meurt, elle, l'église, est libre de se marier à qui elle, l'église, veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Romains 7.2 Ainsi, une église qui a un pasteur est liée par la loi à son pasteur tant qu'il est vivant. Mais si le pasteur meurt, elle, l'église, est dégagée de la loi qui la liait à son pasteur. 3 Si donc, du vivant de son pasteur, elle devient l'église d'un autre pasteur, elle sera appelée adultère. Mais si le pasteur meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant l'église d'un autre pasteur. Donc, tous ces gens qui croient que leur pasteur est leur mari, si vous n'êtes pas avec votre premier pasteur, vous vivez maintenant dans l'adultère. Et vous tous les pasteurs qui ont accueilli des membres d'une autre église où ils avaient un pasteur, dans votre congrégation, vous commettez l'adultère avec ces personnes. Car aucune femme Néhémie peut avoir de mari. Et aucune femme mariée Néhémie peut quitter son mari et se remarier à moins que son premier mari Néhémie soit mort. Alors faites comme vous voulez, mais vous Néhémie pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous enseignez que le pasteur est le mari de l'église, alors Christ Néhémie peut pas être le mari de votre église. Vous Néhémie pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Par conséquent, en lisant tout cela de cette façon, il est vraiment évident que si vous avez déjà eu un pasteur, alors ce premier pasteur est celui avec lequel vous êtes coincé le reste de votre vie, même s'il peut être en dehors de la parole. Et puis si, également, un pasteur accepte un nouveau membre venant d'une autre église dans son église, si ce membre avait un pasteur différent, alors ce pasteur enfreint également la loi de Dieu et commet un adultère pour avoir reçu ce nouveau membre dans son église venant d'une autre église. Vous voyez donc à quel point il est ridicule d'enseigner cela pour doctrine au lieu de le prendre comme une simple illustration afin de souligner que les gens suivent aveuglément leur pasteur parce qu'ils n'ont pas de révélation. Maintenant, rappelez-vous que frère Branham a enseigné ce que l'apôtre Paul a enseigné, et l'apôtre Paul nous a enseigné que nous sommes mariés à Christ et qu'il est la parole. Il est notre mari. Le 5e saut 22 mars 63 p. 146 Et je me suis mis là. Puis une voix a dit, tu as été rassemblé avec tes gens, comme Jacob a été rassemblé avec ses gens. J'ai dit, tous ceux-là sont les miens. Est-ce qu'ils sont tous des Branham? Il a dit, non. Ce sont tes convertis à Christ. Et j'ai regardé autour de moi. Et il y avait une femme vraiment jolie qui accourait. Elle semblait si réelle. Elles étaient toutes à peu près les mêmes. Elle a jeté son bras autour de moi et elle a dit, « Oh, mon précieux frère !» Elle m'a regardé. J'ai pensé, « Oh là là !» Elle ressemblait à un ange. Et elle est passée. Et cette voix a dit, « Tu ne l'as pas reconnue ?» J'ai dit, « Non. » Et j'ai répondu, « Tu l'as conduite à Christ quand elle avait plus de 90 ans. » Il a dit, tu sais pourquoi elle pense tant de bien de toi? J'ai dit, cette jolie fille avait plus de 90 ans? Ouais. Dit-il. Elle Néhémie peut plus jamais changer maintenant. Il a dit, c'est Esther la raison pour laquelle elle dit, précieux frère. J'ai pensé, oh là là. Et j'avais peur de ça. Oh. Ces gens sont réels. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi Néhémie puis-je pas voir Jésus? Il a dit, eh bien, maintenant, il viendra un jour, et il viendra à toi en premier, et ensuite tu seras jugé. Il a dit, ces gens sont tes convertis que tu as conduits. Et j'ai dit, tu veux dire qu'en étant un leader, il me jugera? Il a répondu, oui. Et j'ai dit, est-ce que chaque leader doit être jugé comme ça? Il a répondu, oui. J'ai dit, et Paul? Il a dit, il devrait être jugé avec les siens. Eh bien, dis-je, si son groupe entre, le mien aussi, parce que j'ai prêché exactement la même parole. J'ai dit, là où il a baptisé au nom de Jésus, j'ai baptisé aussi. J'ai prêché. Et les millions de personnes ont crié, tous en même temps. Ils ont dit, nous nous reposons là-dessus. L'âge de l'église de Sardes du 9 décembre 60 p. 46. Si vous remarquez cela, Sester écrit ici. L'écrivain savait. Regardez, les, cet esprit. Regardez, un E majuscule, le Saint-Esprit, un seul d'entre eux. Homme. Le même Saint-Esprit venant cette fois au cet âge de l'Église apportant la même lumière. Vous le saisissez maintenant? Les sept âges de l'Église, cette fois, ce Saint-Esprit porterait ce même message. Une malédiction a été prononcée contre quiconque le changerait. Maintenant, voyez si cela comprend la révélation de toute la chose. Il a dit, quiconque enlèvera ou ajoutera la même chose sera retiré sa part du livre de vie. Sester toute la chose qui a été couverte alors. Il n'y a donc pas de place pour vous de sauter ou de vous faufiler ailleurs, vous voyez? Parce que Sester tout ce qu'il y a. Sester ce que Dieu a dit. Sester ce que l'Esprit a dit. Et Sester ce que les églises ont dit. Maintenant, si vous essayez d'imposer par la force un autre type de doctrine que ce que Paul a enseigné, Sester faux. La Bible Esther correcte. Sa vie. Jésus a dit, je retirerai sa part du livre de vie. Par conséquent, qui Esther ce que l'apôtre Paul a enseigné être le mari de l'Église? Lisons quelques-unes de ses déclarations à ce sujet. Je vais vous en lire trois. Numéro 1. 2 Corinthiens 11.2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Numéro 2. Éphésiens 5.24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, le type de l'épouse pour son époux. Sester Christ pour l'Église. Numéro 3. Éphésiens 5.23. Car le mari est le chef de la femme, comme ce qui signifie de la même manière que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. De son sermon d'unité 11 février 62 p. 10 frère Branham dit, et Sester le seul terrain de communion que Dieu ait jamais établi pour lui-même et son Église. Sester l'unité de lui-même dans les gens. Sester le seul terrain de communion. Et la seule façon d'avoir ce terrain, Sester par l'union d'être uni à lui pour toujours. Tout comme lorsque vous vous unissez à votre mari, la femme de s'unir à son mari, Sester un vœu jusqu'à la mort. Maintenant, quand vous vous unissez à Dieu, Sester la même chose pour l'Église qui Sester unie à Christ, Sester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, si vous n'avez mis péché jamais ou n'avez mis fait rien de mal acquis, vous serez éternellement unis à Dieu. Et seule la mort peut vous éloigner de Dieu, et non pas la mort physique, mais le péché de la mort. Le péché, Sester la mort, et cela vous éloigne de Dieu. Ainsi, d'être uni à lui dans l'esprit de sa puissance, Sester la vie éternelle, vous êtes éternellement uni à Dieu. Oh, je veux y revenir après un instant. uni éternellement au Dieu éternel, parfaitement en harmonie avec lui, parfaitement unis ensemble, une seule Église s'estère tout, Dieu et son Église sont un, unis ensemble. Maintenant, voyons ce que frère Branham dit d'autre à ce sujet. Le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu à 1.28.65, matin p. 54 maintenant. Regardez. Le lieu que l'Éternel choisira pour y placer son nom. Tu n'y mangeras pas de pain levé. Qu'est-ce que cela caractérise dans le sacrifice? Néhémie le mélangeait à aucun credo, il faut que ce soit la parole. Pas de pain levé. Le levain Esther. Vous savez ce qu'Esther un levain dans n'importe quoi. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La pâte au complet. C'est Esther le corps. Vous Néhémie pouvez pas mettre un grain de dénomination ou de credo en Christ. Non. Monsieur. Cela Néhémie fonctionnera pas. Vous vous souvenez du message de jeudi soir dernier? Votre vieux mari doit être mort. C'est Esther juste. Votre nouveau mari Esther la parole 7 jours tu y mangeras du pain, sans, le vin? 7 jours. Qu'est-ce que cela typifie? Les 7 âges complets de l'Église? 7 jours. Pourquoi? Devait-il le manger 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. Est-où l'âge de l'Église? Du début à la fin? Néhémie doit vivre que de la parole de Dieu de cet âge-là. Donc, votre credo romain, méthodiste, baptiste et pentecôtiste Esther mort. L'union invisible 25 novembre 65 p. 125 Esther mon message pour vous. Église. Vous qui êtes dans une union spirituelle par la parole, que vous êtes mort pour ces vieux maris. Vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer. Il est Esther mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est Esther prédestiné en vous, c'est Esther la parole qui vient sur la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la pleine stature de Christ. C'est Esther juste. Alors il peut venir chercher son épouse. Par conséquent, je n'ai mis peu en aucune façon comprendre comment certaines personnes peuvent avoir un esprit si borné au point de changer une illustration, une histoire, un exemple, en un credo et ensuite reposer leur âme sur quelque chose d'aussi clairement faux. Et puis en plus de cela, imposer ce credo aux gens, je sais que plusieurs pasteurs ont effectivement échangé des anneaux avec chaque membre de leur congrégation et ont également échangé des vœux. Quelle bêtise y a-t-il chez des hommes qui Néhémie sont pas appelés au ministère d'enseigner une telle doctrine sans fondement? Mais je sais pourquoi ils le font. Parce que ces ministres Néhémie peuvent pas nourrir le peuple du pain de vie. Alors ils recourent à les contrôler par des notions et des croyances aussi stupides que celles-ci afin de s'attacher les gens. Les 7 âges de l'Église 12 mai 54 p. 79 regardez. C'est Esther l'Église qui lui parle maintenant. Les eaux, Apocalypse 1.7.15 dit, les eaux signifient des peuples et des foules de gens. Maintenant, sa voix, ou cet être qui se tenait là ressemblant à ceci, Christ dans son Église, comme l'épouse et Christ étant un, comme le mari et la femme sont un, l'Église et Christ étant moulus ensemble en une seule personne, le même Saint-Esprit. Et les choses que Christ a faites, l'Église les fait aussi. Esther Jean 14.12 Le voyez-vous? Cette belle Église-là, dans la sainteté, dans la puissance, dans la majesté, voyant des visions, des signes, des prodiges, tout comme il a fait, la voici sur terre, louant Dieu en disant, je n'ai mis peut faire que ce que le Père me montre, ce qu'il m'a montré, et le voici. La seconde venue du Seigneur 17 avril 57 p. 45 Esther le mari et la femme. Qui Esther le type de Christ et de son Église. Et quand vous allez à votre Église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville. Vous pouvez avoir le plus haut clocher de la ville. Vous pouvez avoir le meilleur orgue à tuyaux. Vous pouvez être les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur. Mais tout cela, si vous embrassez et flirtez avec le monde. Ce baiser sur les joues de Christ est un baiser de Judas. Il n'aime et veut rien avoir à faire avec vous. Il regarde votre bague de fiançailles de mariage et trouve que le diadème a changé. Il découvre que l'amour a disparu. Ce n'est qu'une forme. Il découvre que la loyauté a disparu. Vous avez commis des fornications avec le monde. Vous allez à des danses, des soirées boogie-woogie et regardez de vieux et sales programmes télévisés. Vous commettez l'adultère avec Christ, envers lui, en l'appelant votre mari. La Bible a dit, vous dites, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais il a dit, tu n'es mis c'est pas que tu es aille nu, misérable, aveugle, pauvre, et tu n'es mis le sais pas. Il a tenté d'allumer une bougie et de balayer la maison. La venue du Seigneur est proche. Question numéro 2, au cours de la dernière réunion des ministres francophones, en répondant à la question suivante, viens et suis-moi 1er juin 63 p. 12 et ces jeunes qui sont assis ici ce soir, certains d'entre eux cherchent à obtenir leur diplôme. Certains ont déjà obtenu leur diplôme. Mais je me rends compte, Seigneur, qu'il s'est passé quelque chose quelques heures avant que ce grand choc, ou cette grande explosion, n'ait eu lieu dans la montagne au nord de Tucson, lorsque les anges du Seigneur sont descendus. Je me souviens de ce qui a été dit et surtout à propos des jeunes. Cher pasteur, je voudrais savoir ce qui a été dit exactement à propos de nous, les jeunes. Merci. Vous avez dit, je n'ai mis ces pas. Sauf si c'était au sujet des jeunes qui ont été libérés de l'école pour regarder la colonne de nuée monter et descendre de haut en bas. Puis vous avez cité le prophète dans son sermon, qui Esther sous Melchizedek, 21 février 65 soir p. 12. Esther ce que cet événement, dont il Esther parlait dans qui Esther sous Melchizedek, Esther le même que celui qui s'Esther produit à Sunset Mountain avec la venue des anges? Parce que la venue des sept anges, c'était en 1963. Alors que l'événement dont il Esther parlait dans qui Esther sous Melchizedek a eu lieu plus tard, c'est Esther simplement une pensée comme ça bien que je puisse me tromper. Réponse numéro 2, non. Ce n'est pas le cas. Sunset Mountain était avant les sons en 1963. Ce qui s'est passé à Tucson était avant le sermon sur le mariage et le divorce. Frère Branham a prêché, qui Esther sous Melchizedek, et mariage et divorce le même jour, le 21 février 1965. Donc ce sont deux événements complètement différents. Question numéro 3, acte 17.26 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, en citant ce verset, les ministres de nos jours disent que le mariage interracial est biblique, ce dont nous savons tous être de l'apostasie. Que pouvez-vous alors en dire selon la doctrine de Christ? Réponse numéro 3, eh bien, je ne qualifierai pas cela d'apostasie, parce que notre prophète ne l'a pas qualifié ainsi. Alors disons simplement ce que le prophète de Dieu a dit, et soyons à même de montrer cela dans la parole écrite. Alors ce sera dit correctement. Rappelez-vous que les gens feront ce qu'ils voudront faire. Mais quant à nous, Néhémie nous détournons pas de ce à quoi Dieu nous prépare, la résurrection. Balaam s'était écarté de ce que Dieu faisait en regardant le péché d'Israël. Maintenant, je pourrais vous donner toutes les citations du prophète de Dieu à ce sujet. Ensuite les gens l'utiliseraient contre moi et me traiteront de tous les noms, comme ils l'ont fait pour le frère Denis, Reagan, le qualifiant de ministre le plus raciste d'Amérique. Même les médias nationaux l'ont qualifié ainsi. Je me suis senti désolé pour lui, parce qu'il n'a mis faisait que citer le prophète de Dieu à ce sujet. Mais, aujourd'hui, quiconque croit ainsi Esther traitée de raciste. Je vais donc éviter complètement cette question, comme s'il s'agissait d'un piège, et simplement dire que si vous montrez tout ce que le prophète nous a enseigné, il ne devrait pas y avoir de questions concernant le mariage interracial. Frère Bell a dit très clairement que frère Branham a pris position sur le mariage interracial non pas à cause de ce que dit la Bible. Car Moïse était marié de manière interraciale, mais il a pris cette position à cause des difficultés que le mariage interracial cause aux enfants issus d'un tel mariage. Après tout, frère Branham lui-même était le produit d'un mariage interracial, et les enfants de son école lui ont donné beaucoup de mal acquis à l'appeler un squab qui signifie le fils d'une squaw, et le mot squaw est un terme argotique pour indienne. Ce sont des mots qui ont été utilisés pour blesser, et il n'a jamais voulu que quelqu'un ait à vivre ce qu'il a vécu. Et ainsi cela est source de problèmes. Donc, afin d'éviter des problèmes, la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 20.20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et admettons-le, comment au monde allez-vous vous confier à l'Éternel, votre Dieu, et être affermi, sans entendre ce que Dieu dit à travers ses prophètes? Car la parole du Seigneur vient aux prophètes, et réussir signifie s'élever au-dessus des difficultés. Mais ma principale préoccupation est que nous détournions les yeux de tout le monde et de toute chose, sauf de ce que Dieu fait en ce moment. Quand vous regardez ce que font les autres, vous vous éloignerez de ce que Dieu fait, parce que vous regardez aux vases humaines et non à Dieu. Jésus a dit à Pierre d'ôter ses yeux de Jean et de les garder sur lui seul. Quand Pierre lui posa des questions concernant Jean, Jésus lui répondit, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Nous chantons le cantique, « Tournez les regards vers Jésus ». Regardez pleinement son merveilleux visage et les choses de ce monde deviendront étrangement sombres. À la lumière de sa gloire et de sa grâce. Si d'autres veulent croire qu'ils sont le mari de leur église, qu'ils le fassent. S'ils veulent croire un mensonge et être condamnés par le mensonge, c'est leur choix et donc leur problème, et ils devront subir les conséquences de leur décision d'enseigner cela. Mais ce n'est pas votre problème. Enseignez simplement la vérité, mais Néhémie vous laissez pas distraire par le faux. Nous Néhémie devrions pas nous laisser distraire par ce que font le diable et ses anges de lumière. Nous devrions simplement rester concentrés sur Christ et sur ce qu'il fait maintenant pour ses élus. Question numéro 4, mariage et divorce 21 février 65 m1p. 75 Aucun ministre Néhémie peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Vous voulez lire ça? Très bien. Allez dans Lévitique 21.7 et Ézéchiel 44.22 et cela vous montrera que le sacrificateur Néhémie devait pas épouser une femme qui a été touchée par l'homme. Ce type Esther, celui de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce qu'il manipulait le feu de Dieu. C'est-à-dire ce que faisaient les sacrificateurs, les fils d'Aaron. S'agit-il d'une virginité spirituelle comme certains l'ont dit? Réponse numéro 4a, s'agit-il d'une virginité spirituelle comme certains l'ont dit? Bien sûr que non. Il n'y a pas moyen que quelqu'un lise cette écriture et pense qu'elle se rapporte à autre chose qu'à ce qu'elle dit. Dieu a dit ce qu'il voulait dire et il voulait dire ce qu'il a dit. Les prédicateurs du monde s'effondrent, Et si un aveugle conduit un aveugle? Ils tomberont tous deux dans une fosse. Néhémie laissant pas la direction de ces réunions se détourner de leur but, celui de nous mettre tous dans l'état d'esprit, pour que le cri de 1 Thessaloniciens 4 passe à la voie de la résurrection. Et Néhémie regardons pas à ce que font ou prêchent les autres et Néhémie laissons pas cela nous distraire de ce que Dieu nous réserve. De son sermon, Dieu tient sa parole 20 janvier 57 soir P, 70 William Branham a dit, et nous Néhémie pouvons le connaître que selon la Bible. Non pas par notre Église, mais par la naissance, la nouvelle naissance, en étant né de nouveau. Et Père, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas une personne mortelle ici, avec moi-même, qui voudrait être condamnée ou aller en enfer. Et pourquoi laisserions-nous quelque chose se mettre en travers de notre chemin? Pourquoi acceptons-nous une contrefaçon alors que le ciel est rempli de l'authentique? Et dans Hébreux chapitre 7 partie 1 15 septembre 57 soir P, 92. Il a également dit, et quand vous essayez de dire, Seigneur, je t'aime et de faire les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. Alors pourquoi? À quoi bon accepter une vieille expérience intermédiaire? Et quelque chose d'autre comme ça? Quand les grands cieux du ciel sont pleins de la vraie chose? Pourquoi voulez-vous être un soi-disant chrétien misérable? De profession? À mi-chemin? À moitié cuit? Alors que vous pouvez être un véritable enfant de Dieu né de nouveau avec les cloches du ciel résonnant dans votre cœur, se réjouissant et louant Dieu, et vivant une vie de victoire par Jésus-Christ. N'essayez pas de le faire par vous-même, car vous n'y parviendrez pas pour commencer. Mais prenez-le au mot, et reposez-vous sur ce qu'il a dit être la vérité, et croyez-le, et aimez-le, et il fera en sorte que tout fonctionne correctement pour vous. Voilà. C'est-à-dire ça l'idée. Le diable veut distraire les frères de ce sur quoi nous devrions nous concentrer, et c'est-à-dire celui d'observer ce cri et de chercher à le voir passer à la voie de la résurrection et pour ce faire, il nous faut rester avec ce que le prophète et les Écritures nous enseignent. Matthieu 10.41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ils ont donc posé la question. Qu'est-ce qu'un ministre est-ce censé faire? Si Néhémie remplit pas cette condition des Écritures, comme nous en voyons beaucoup aujourd'hui. Réponse 4b, qu'est-ce qu'un ministre est-ce censé faire? Lisez votre commission, mon frère, dans Éphésiens 4. Dieu vous dit ce qu'il attend de vous. Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, quels sont les devoirs du ministère? Qu'êtes-vous censé faire? Quels sont les ordres que vous avez reçus d'accomplir? Paul nous le dit. Verset 12 numéro 1. Pour le perfectionnement des saints, et qu'est-ce que c'est-ce? Les équiper pleinement de la parole, les aider à achever leur croissance, les amener à la pleine maturité. Numéro 2. En vue de l'œuvre du ministère, quelle est-ce l'œuvre du ministère? Nourrir le troupeau, comme un berger, veiller sur le troupeau, les instruire dans la parole. Numéro 3. Et de l'édification du corps de Christ et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie les rendre plus forts et sains, solides, matures. Pour qu'ils puissent gérer tout ce que le diable lance contre eux en allant immédiatement aux Écritures. Et combien de temps devons-nous continuer dans cette œuvre? L'apôtre Paul y répond également. 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi est-ce une révélation? Donc c'est la révélation. Et ce qu'est-elle la révélation? C'est-elle la révélation de Jésus-Christ. Puis il dit que nous, Néhémie, parviendrons jamais à la révélation tant que nous n'aurons pas compris qui est-elle cette révélation. Remarquez, Paul ajoute, et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est-elle là que la plupart des ministres échouent? Parce qu'ils sont tellement occupés à édifier l'Église en termes de quantité plutôt que de caractère. Et à moins que Néhémie réussissiez à les faire se concentrer sur le Fils de Dieu, ils n'atteindront jamais le caractère de Christ. Alors veillez à ce que les gens se concentrent sur Christ. Alors cela amènera les gens à l'état d'homme fait. Et ce mot fait ou parfait est traduit du mot grec teleio, qui se réfère à un fils qui est prêt pour l'adoption. Remarquez comment ce mot est utilisé tout au long du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 14.20 Frères, Néhémie, soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits teleio, des fils pleinement matures. 1 Corinthiens 2.6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits teleio, les fils pleinement matures, sagesse qui n'estère pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Philippiens 3.15 Nous tous donc qui sommes parfaits teleio, tire des fils pleinement matures, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Colossiens 1.28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait et léo, des fils pleinement matures en Christ. Hébreux 5.14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits et léo, les fils pleinement matures, prêts pour l'adoption, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal acquis. Jacques 1.4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et léo, des fils pleinement matures et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 3.2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un n'est bronche point en parole, c'est un homme, parfait et léo, un fils pleinement mature, capable de tenir tout son corps en bride. 1 Jean 4.18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait et léo, un fils pleinement mature dans l'amour. Vous voyez? Alors l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4 dit, à la mesure de la stature Eulikia, qui signifie la pleine maturité parfaite de la plénitude de Christ, et puis il termine en disant, 14 afin que nous n'ayons soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez? Christ est à la tête, mais nous, sommes le corps. Pouvez-vous imaginer mettre la tête d'un homme complètement mature sur le corps d'un petit enfant? Christ, qui est à la tête, doit s'ajuster parfaitement au corps, de sorte que le corps doit mûrir et grandir à lui. Pas lui qui descend à notre niveau, mais c'est nous qui grandissons à lui. 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous, Néhémie, devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et c'est le but de votre ministère. Néhémie pas construire une organisation, mais d'édifier un corps pour qu'il s'ajuste à la tête qui est Christ. Je suis désolé mes frères, mais nous n'y pouvons pas nous permettre une minute d'être distraits par tout ce qui se fait dans d'autres congrégations, et par des ministres qui n'y font que faire semblant d'être appelés. Dieu vous a dit quoi faire? Alors faites-le. Question numéro 5. En tant que pasteur, nous sommes confrontés à un débat sur le contrôle des naissances entre mari et femme. Et il y a maintenant beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, comme vous le savez. Alors en tant que pasteur et ancien, que pouvez-vous, sagement, nous conseiller de faire en tant que pasteur? Frère Branham a enseigné qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de le faire, et c'est la méthode naturelle. Et il y a beaucoup de conseillers qui enseignent la planification familiale naturelle. Mes frères, j'attendrai la majorité de ces questions de la part de quelqu'un qui vient d'entrer dans le message. Mais ces questions nous ramènent des années en arrière comme si vous n'aviez rien appris au cours de la dernière décennie. Ce n'est mis sont pas des questions auxquelles on s'attendrait de la part de ministres pleinement matures et prêts pour l'enlèvement. D'une manière ou d'une autre, vos pensées ont été distraites et, comme Paul l'a dit, lorsque vous devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, la seule église qui n'a jamais semblé atteindre la maturité dans l'évangile, 2 Corinthiens 11.3 toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées Néhémie se corrompent et Néhémie se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Ok. Alors maintenant que vous savez quoi faire, ce qu'est-ce votre description de poste, passons à la dernière question. Question numéro 6, Shalom fidèle serviteur du Seigneur. Notre précieux frère bien-aimé pasteur Brian, que Dieu vous bénisse abondamment et richement ainsi que toute votre famille et votre église. Amen. Dans votre série Eden de 7 en numéro 12 La puissance d'égarement de la pré-tribulation du 31 octobre 2021, vous nous avez enseigné, nous voyons donc que le problème que nous avons, même parmi nous, avec beaucoup de ceux qui prétendent être des croyants du message, c'est-à-dire que les hommes ont reçu leur enseignement des hommes, mais pas de Dieu. Et s'il vous plaît, Néhémie me parlez pas de cette église-ci du message ou de cette église-là du message, parce qu'il n'y a qu'une seule église et c'est-à-dire le corps des croyants nés de nouveau. Donc, des individus composent ce corps et non les corps de l'église. Je n'ai jamais aimé cette idée d'appeler des églises du message, parce que beaucoup n'aimés le sont pas. C'est-à-dire comme d'appeler luthériens tous ceux qui croient en la justification, mais beaucoup de ceux qui croient en la justification, que le juste vivra par la foi ou la révélation, qui était le message de Luther, mais beaucoup qui croient cela n'aimés sont pas luthériens. Vous pouvez appeler les gens des croyants du temps la fin, mais tous les gens qui croient que nous sommes au temps de la fin Néhémie sont pas dans le message que Dieu a fait descendre par un cri. Pas plus que tous ceux qui écoutent les bandes de William Branham. Néhémie croit le message du cri parce qu'il nie ce qu'il a enseigné. N'oubliez jamais qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque congrégation. Donc les églises en général ont trois sortes de croyants. Par conséquent, les appeler toutes des églises du message n'est-ce pas seulement une erreur, mais c'est-ce d'une portée organisationnelle et c'est-ce un point de vue confessionnel. Et avouons-le, ce genre de discours, c'est-ce l'organisation qui regroupe tout le monde sous la même rubrique. Donc, la question est-ce, il y a trois choses que j'aimerais que vous approfondissiez à propos de ces trois choses. La désignation église du message. Croyant du temps de la fin, croyant dans le message, je voudrais vous demander de parler davantage de ces trois choses. Réponse numéro 6, je n'y pense pas qu'il soit nécessaire de nuancer avec plus de mots ce qui a été dit. Il vous suffit de revenir en arrière et de réfléchir à chaque déclaration. Jésus a dit, Numéro 1. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et William Branham nous a dit. Numéro 2. Ce n'est-ce pas parce que vous le dites que ça se tait ainsi. Et l'apôtre Jean nous a dit, numéro 3. Éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Et comment éprouvez-vous les esprits? Donnez-leur le test de la parole. Prenez donc chacun de ces trois expressions et appliquez-les à ces trois points. Les croyants du temps de la fin, les croyants dans le message et les églises du message, et appliquez-le au point numéro 1. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et au point numéro 2. Ce n'est-ce pas parce que vous le dites que ça se tait ainsi. Et au point numéro 3. Éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Et puis demandez-vous si leur profession est-elle égale à leur vie, à leur compréhension, à leur enseignement doctrinal, s'ils égalent la parole. Alors vous aurez votre réponse. C'est Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.